France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors déjà, un salut à l'artiste Abraham Poincheval, qui est un artiste performeur, qui aujourd'hui, à Paris, au Palais de Tokyo, s'est enfermé pour 8 jours, c'est vrai, hein, dans un rocher, afin de ressentir le temps minéral. Alors cet homme était déjà connu pour avoir vécu dans la peau d'un ours. Son prochain défi sera de couver une dizaine d'œufs de poule pendant 26 jours. Et dire que cet homme ne souhaite pas se présenter à l'élection présidentielle, c'est vraiment dommage, hein. Voilà, on aurait espéré quand même. Et eux, ils font de l'actualité une performance de tous les jours. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraub du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également Xavier Alberti, bonsoir. Alors bonsoir. Vous êtes entrepreneur et soutien d'Emmanuel Macron. Yann Lindingre, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Foot Glacial.
Pas soutien d'Emmanuel Macron.
Pas encore, peut-être, on ne sait pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans cette campagne. Et Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, 4 débats tombés du distributeur de l'actualité. Protectionnisme, est-ce que c'est la solution à tout? Vous faites quoi le 20 mars? Eh bien, les candidats à la présidentielle ont déjà pris langue. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. La laïcité, nouveau thème de campagne. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Allez, tiens, nous allons parler de François Fillon, mais sans poursuivre notre phrase par « dans le cadre enchaîné ». Voilà, parce que ça nous fait bizarre, mais le candidat de la droite a décidé donc de repartir à la conquête de l'Élysée sur le terrain des idées. Le jour de sa conférence de presse pour déminer le Penelope Gate, François Fillon avait prévenu, c'est le début d'une nouvelle campagne. Et en effet, l'ex-premier ministre a un peu changé, alors qu'il a annoncé aller jusqu'au bout, même s'il était mis en examen, contrairement à ce qu'il avait dit. Il a également revu légèrement son programme santé, finalement moins polémique qu'annoncé pendant la campagne des primaires à droite cet automne, excite les gros et petits risques. Hein. Désormais, le candidat l'assure. Son programme garantit le côté obligatoire et universel de l'assurance maladie, tout en promettant une meilleure prise en charge, voire une prise en charge à 100% aux Français, sans qu'il ne leur coûte davantage. Alors, notamment concernant les lunettes pour les enfants, les prothèses auditives et dentaires. Et tiens, ça rappelle quelque chose à Emmanuel Macron. Et il s'en amuse, le bougre, Emmanuel Macron.
Il faut dire un mot de l'optique, le dentaire et les audioprothèses, puisque vous avez proposé, vous n'êtes pas le seul, mais vous proposez le remboursement.
Je crois que j'ai été le premier.
Le premier, c'est possible, oui, effectivement. Vous avez proposé le remboursement à 100%.
Parce que quand on a, c'est un paradoxe aussi, c'est comme les dépenses. Parfois, on dit que vous n'avez pas de programme, mais on peut le recopier.
C'est vrai que c'est une campagne électorale.
C'est une campagne. Non, mais parfois, il faut dire les choses.
C'est vrai.
Voilà, le petit mot d'Emmanuel Macron, donc au grand oral de la mutualité française aujourd'hui à Paris. Alors, Judith Vintraub, est-ce que pour vous, il a adouci un peu son programme?
Il y a rajouté des mesures en direction des gens qui ne peuvent pas se payer justement tous ces matériels, oui. toutes ces prothèses. Il n'a pas changé fondamentalement, hein, contrairement à ce que je lis et à ce que j'entends. Alors, on n'appelle plus ça gros risque, petit risque, mais vous savez que déjà, les complémentaires ne prennent pas en charge les affections de longue durée, qui sont prises en charge à 93% à la Sécurité sociale. Il y a un vrai sujet de répartition entre les complémentaires, puisque 95% des Français sont couverts, et l'assurance maladie. Donc les fondamentaux ne changent pas, l'habillage change. Macron a raison de dire qu'il se fait piquer
son idée de remboursement.
Trois mesures particulièrement populaires. Il a moins raison d'ironiser sur la façon dont François Fillon les financerait, parce que lui, Macron, propose 15 milliards d'économies sans dire du tout comment. Fillon avance quand même quelques mesures pour faire ces 20 milliards d'économies. Je pense au rétablissement du jour de carence, au dégraissage de fonctionnaires dans l'administration des hôpitaux, etc.
On va continuer à en parler de ça, mais justement, Yann Lindingre, quand vous l'avez vu, finalement, aujourd'hui, François Fillon s'est adouci. Vous trouvez, vous?
Je vais avoir une lecture un peu perverse.
Ah, je vous en prie.
Il y a quelques années, quand François Fillon était Premier ministre, il était question de la réforme des retraites et on s'est rendu compte que quand on encourageait la capitalisation, ben finalement, on ramenait de l'argent dans le giron de Malakoff-Médéric, par exemple, où le frère de Sarkozy devenait patron. Donc, et là, on se rend compte que AXA aurait payé 200 000 euros à Fillon, d'après Mediapart, à 2F Conseil, etc. Donc peut-être que ces liens avérés avec les secteurs privés ont fait qu'il a peut-être adouci sa position, parce que la ficelle est un peu grosse.
Voilà. En tout cas, ça coûte rien de lancer l'accusation. Même si lui s'en défend en disant qu'il n'a fait que du conseil financier pour AXA, et même si vous regardez en détail le programme de Fillon tel qu'il l'a précisé hier, c'est pas forcément une bonne affaire pour les complémentaires, pour les mutuelles, hein, parce qu'elles seront obligées de faire un sérieux effort pour satisfaire à toutes les obligations nouvelles qu'ils leur imposent.
Xavier Alberti, alors justement sur ces nouvelles propositions, on avait dit, alors j'avais juste noté François Fillon qui avait dit au mois de janvier à propos de la sécurité sociale et de la polémique qu'il y avait eu avec Bruno Retailleau, on se souvient petit rhume, gros rhume, etc. jusqu'où ça allait. Il avait dit on n'a pas été bon. Voilà, tout simplement, il l'avait dit dans ces termes-là. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il a rectifié ?
Ah non, il rectifie rien du tout, il s'enfonce. D'abord, il part pas en conquête, il part en retraite. C'est-à-dire que sa conquête ressemble à une marche arrière qu'il avait commencé d'ailleurs avant l'affaire Fillon. Parce qu'il avait Pénélope. Commencé... Oui, mais je préfère dire que c'est une affaire Fillon qu'une affaire Pénélope. À mon avis, pas grand-chose à voir là-dedans.
Là, c'est carrément insultant.
Le sujet, c'est d'abord qu'il est reculé en décembre. Il avait commencé à dire en décembre qu'effectivement, il allait mettre de l'eau dans son vin. Il continue à le faire en gardant finalement les éléments les plus brutaux et en essayant d'aller piquer dans le programme de Macron effectivement des idées qui sont populaires et de les intégrer à l'intérieur de son modèle. Le fait est que on peut pas balayer d'un revers de main le fait qu'il ait pu travailler pour des grands groupes de l'assurance et de la protection sociale, et qu'à un moment donné, ça puisse se retrouver sur le tapis quand il présente son programme.
Non, mais je remarque également. On n'est pas obligé de se borner à jeter le soupçon sans vérifier.
On peut pas le balayer d'un revers de main. C'est tout. On peut se dire, tiens, voilà, c'est troublant.
Je crois avoir avancé un ou deux éléments parmi lesquels le fait que c'est pas forcément un cadeau pour les.
Moins
vous pouvez répéter ce moins troublant 10 fois. Alors, les gens qui voudront être troublés.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à être plus troublant hein, dans un instant, parce que voilà, on était moins. L'info à 20h10, c'est Pierrick Bonneau.
360 000 canards abattus dans les Landes et un vide sanitaire général dans une zone englobant 4 départements du Sud-Ouest. Le ministère de l'Agriculture annonce de nouvelles mesures pour enrayer l'épidémie de grippe aviaire. Les abattages dans les Landes auront lieu dans les 15 jours, selon le ministre Stéphane Le Foll. Les autres palmipèdes des zones concernées iront jusqu'au bout de leur cycle avant l'instauration du vide sanitaire. Je ferai valoir les intérêts français. Les quelques mots d'Emmanuel Macron à sa sortie du bureau de Theresa May à Londres, le candidat du mouvement En Marche rencontrait cet après-midi la première ministre britannique. Au cours de leur entretien, l'ancien ministre de l'économie a rappelé à Theresa May que s'il arrivait au pouvoir en mai, il s'opposerait à ce que le Royaume-Uni ait accès au marché unique sans contrepartie financière. La nouvelle vie de Nicolas Sarkozy, l'ancien président éliminé dès le premier tour de la primaire à droite, rejoint Accor Hôtel, annonce du groupe ce soir. Nicolas Sarkozy va devenir administrateur indépendant au sein du conseil d'administration. Il présidera un nouveau comité de stratégie internationale. Et puis plus d'1,5 million d'enfants risquent de mourir de faim cette année en Afrique et au Yémen. Le cri d'alarme est lancé par 3 organisations des Nations Unies. Le Soudan du Sud est la zone la plus touchée. Le président Salva Kiir promet ce soir qu'un accès sans restriction va être accordé aux humanitaires pour venir en aide aux populations touchées par la famine. Ce sont les conflits armés qui en sont à l'origine.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des nouvelles mesures pour la santé de François Fillon à l'occasion du grand oral de la mutualité française hein, où de nombreux candidats à la présidentielle ont défilé aujourd'hui. Alors Christophe Alix, c'est vrai que ce nouveau projet, on a vu Emmanuel Macron le critique, mais il y a également Benoît Hamon, lui qui se demande comment on peut faire 20 milliards d'économies sur la Sécu et rajouter 20 milliards de remboursements. Est-ce que finalement, c'est là aussi où sur le remboursement, on se demande sur le chiffrage, où François Fillon n'est peut-être pas très clair.
Ben, on peut se demander, mais apparemment, j'ai cru comprendre que François Fillon reconnaissait lui-même que il allait peut-être falloir, enfin que il suivrait, mais que il y aurait des augmentations des complémentaires santé qui seraient inévitables. C'est d'ailleurs un petit peu la différence, je crois, avec Macron, c'est que Fillon reconnaît que voilà qu'il y aura une augmentation du coût. Qui devra être pris sans doute par les complémentaires santé. Je crois qu'il a mis en place d'ailleurs également une sorte de... Il veut créer encore un énième comité qui serait un comité finalement un petit peu chargé de surveiller l'évolution de la dépense de santé. Hein, un nouveau comité d'évaluation. Donc, je crois qu'il ne dénie pas le fait que tout ça aura un coût. En même temps, bien sûr, on sent bien une espèce de pirouette pour essayer d'apparaître un petit peu plus séduisant et un peu moins cassant par rapport au système de santé.
Alors, Gilles Vintraube.
La question, c'est pas le coût en valeur absolue, c'est le rendement et le profit qu'en tireront aussi les assurés. C'est quand même une question très importante. On a vu que l'enfer était pavé de bonnes intentions et que la généralisation de la complémentaire obligatoire à tous les salariés s'est traduite par soit un moindre remboursement des soins. Pourquoi ? Parce que comme les salariés se rabattaient ou prenaient, puisque c'était obligatoire, la mutuelle à laquelle avait cotisé le patron de leur boîte et que le patron cotisait à une mutuelle qui remboursait moins bien, ils étaient obligés de payer une surcomplémentaire pour arriver au même résultat. Total, leur couverture s'est dégradée. Alors, donc il faut voir les deux aspects.
Xavier Albertis, est-ce que vous avez l'impression aussi que François Fillon, on l'a vu la semaine dernière, quand il avait rencontré Nicolas Sarkozy, il avait fait un discours sur la sécurité assez dur, on avait dit tiens, il fait du Sarkozy. Est-ce que vous avez l'impression que de mettre un tout petit peu d'adoucissant dans son projet santé, c'est également pour essayer de plaire eh bien, aux plus modérés des Républicains qui avaient levé les boucliers au moment de son élection ?
Je pense qu'il est, et c'est le grand paradoxe de Fillon, c'est que finalement il est sorti de la primaire extrêmement fort. Et deux mois après, il est extrêmement faible. Il est extrêmement affaibli. Et de ce fait, il est obligé, finalement, de faire exactement ce qu'il avait dit qu'il s'interdirait de faire, c'est-à-dire de composer avec tout le monde. Ouais. Il est obligé de composer avec les sarkozystes, il est obligé de composer avec les juppéistes, et il est finalement obligé de tordre le cou au programme sur lequel il a été élu. Été élu à la primaire.
Vous venez de dire qu'il a gardé les aspects les plus durs.
Mais je dis bien qu'il compose avec tout le monde.
Il a introduit
des doses de sarkozysme, effectivement. Ce matin, Juppé a lancé un appel en disant, dis donc, faut pas m'oublier.
Et pendant que nous parlons, ils sont en train de dîner, d'ailleurs, les
juppéistes. Il va forcément répondre favorablement à l'appel des juppéistes parce qu'il n'a plus le choix.
C'est ça.
Il n'est plus libre de sa propre candidature.
C'est ça aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui François Fillon qui est obligé, finalement, on voit, même si c'est pas pareil, mais Benoît Hamon qui essaye de composer à gauche, on voit François Fillon qui est finalement obligé de remettre les mains dans le cambouis, dans son parti, pour que ça tienne.
Ils se sont distingués sur des effets d'annonce, donc ils se sont pas distingués sur réellement un programme qu'ils allaient appliquer les uns les autres, qui plus à gauche, puis qui plus à droite, etc. Donc, ce qui m'embête vraiment pour en revenir à cette question de sécu, c'est qu'on entend Fillon aujourd'hui qui dit qu'il va remettre en cause le tiers payant universel, s'en prendre toujours aux gens qui ont pas de rond et qui ont pas chez le médecin parce qu'ils ont pas d'argent, toujours s'en prendre à eux. Alors lui qui a un parangon de vertu, je l'attendrais plutôt pour dire, moi, j'en ai marre d'être un féodé au labo, par exemple. J'ai eu Roselyne Bachelot, qui elle-même était un produit des labos pendant X années dans mon gouvernement. Et je ne me remets absolument pas en cause le fait que le problème de la Sécu, c'est aussi le problème de la toute-puissance des labos. J'entends personne là-dessus.
Christophe Alix ?
Oui, effectivement, il y a du négatif aussi. Enfin, la réforme du tiers payant, c'est quelque chose qui est difficile. Mais enfin, de vouloir revenir dessus, ce serait quand même un mois. Je crois que Fillon parle d'étatisation rampante de la médecine libérale. Enfin bon, c'est quand même...
Parce que ça force les médecins à faire de la paperasse,
il y a quand même pas mal d'informatique maintenant. Oui. Et les médecins quand même participent bien d'un système du nom, je dirais pas d'un service public, mais enfin en tout cas d'une santé publique qui est remboursée par la sécurité sociale et qui est entre guillemets socialisée.
Qu'on en est arrivé à ce qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui veulent faire médecine parce que c'est trop dur.
Il y a beaucoup de monde qui veut rentrer en première médecine.
Une dernière question avant qu'on passe au débat. Est-ce qu'à votre avis, Xavier Alberti, avec ce genre de proposition, François Fillon dit aujourd'hui, il l'a dit dans une interview dans Le Parisien aujourd'hui en France, je veux combattre sur les idées, je ne parlerai plus des affaires qui me concernent. Est-ce qu'aujourd'hui, il est redevenu audible ? Alors que pendant des semaines et des semaines, on avait du mal à parler d'autre chose que de l'affaire Fillon.
Il a une chance de le rester, ça ne veut pas dire qu'il est crédible. Mais il a une chance de rester audible tant que la justice, ou en tout cas le parquet financier, ne décide pas de l'inverse. En fait, et encore une fois, la grande faiblesse de Fillon aujourd'hui, c'est de ne plus être maître de son destin et de son programme, parce qu'il doit composer et avec à l'extérieur le parquet financier et à l'intérieur avec toutes les mouvances et tous les courants des Républicains.
Pour vous, Gilles Vintraube, aujourd'hui, finalement, François Fillon...
La preuve, c'est qu'on est en train de discuter de ses propositions sur la santé assez vigoureusement, que les autres candidats lui répondent. On a vu Emmanuel Macron, Benoît Hamon a critiqué aussi très vivement son programme. Oui, il est en train de redevenir audite sur son programme, mais entre-temps, il s'est passé plusieurs choses. Les sondages sont intervenus dans le débat, pour le meilleur et pour le pire, comme d'habitude, et sans qu'on sache la fiabilité à leur accorder. Mais en tout cas, Fillon n'a pas décroché. Selon le dernier Elab Express, il remonte même, Emmanuel Macron, lui, perd jusqu'à 5 points.
Il décroche un peu, Christophe Félix.
Le problème, c'est que là, effectivement, ce soir, on parle de santé, mais on parlera aussi, dans cette présidentielle, de réforme des institutions, de corruption, de transparence, de statut de l'élu, et il y a un certain nombre de sujets qui, lorsqu'ils vont être abordés dans la campagne, ramèneront, mais très directement et douloureusement, François Fillon à la réalité de l'affaire qui est justement en plus encore en cours et avec un couperet potentiel de la justice. Donc il n'en a pas fini, ça dépendra des sujets qui seront abordés.
Yann Amal.
Il faut dire aussi que François Fillon a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu l'affaire Le Pen qui commence à prendre de plus en plus d'importance. L'affaire Dassault aussi avec ses 33 millions.
On parlait de l'affaire Le Pen, ses assistants parlementaires à l'Europe.
Puis Dassault aussi donc, qui a été condamné. Donc finalement, ça se noie un peu.
Il est candidat à la présidentielle comme chaque assistant.
Non, mais je veux dire, toutes ces affaires.
C'est juste histoire de dire.
Il devient un politique comme les autres.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il peut en ressortir de quand on voit un bon sondage pour François Fillon, pour vous aujourd'hui, quelle est la signification de ça? Ça veut dire qu'à un moment,
on la comprend quand on fait son boulot sur le terrain, quand on a assisté à la colère des électeurs de droite auxquels Fillon avait vendu son exemplarité et son caractère irréprochable. Ces électeurs qui vous ont dit « si j'avais su, j'aurais jamais voté pour lui » et qui vous disent aujourd'hui, depuis 8-10 jours, le discours a changé, c'est « on l'a, on se le garde, c'est notre candidat, il n'y en a pas d'autre ». Et le fait que le canard en ait remis une couche 2 semaines de suite, pas très convaincante, il faut bien le dire, que Mediapart ait exhumé une vieille affaire contre Thierry Soler, conforte les électeurs de droite dans l'idée qu'on veut les priver de candidats. Donc ça renforce François Fillon.
Allez, dans un instant, on va parler d'un autre thème de campagne. L'info à 20h20, c'est Pierrick Bonneau.
La vidéo a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Un policier municipal qui frappe 2 fois au visage un homme tout juste interpellé après une bagarre. C'était dans l'Hérault le 18 février. Le parquet de Béziers ouvre ce soir une enquête confiée à l'IGPN, la police des polices. Enquête pour suspicion de violence pouvant être imputée à un ou plusieurs policiers municipaux. 3 semaines après l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois. Elle était surnommée la loi Rana Plaza. Le Parlement adopte définitivement et après plus de 3 ans de débat la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, vigilance quant au respect des droits humains et de l'environnement chez leurs sous-traitants. La proposition de loi visait à éviter les drames tels celui du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Plus d'un millier d'ouvriers avaient péri dans l'effondrement d'un immeuble. La gauche a voté unanimement pour. Les Républicains vont saisir, eux, le Conseil constitutionnel contre une loi qu'ils qualifient de punitive à l'égard des grandes entreprises. Plus de 8800 emplois créés dans la police sous le quinquennat de François Hollande, d'un rapport des inspections générales de l'administration et des finances. Les engagements du président ont été tenus, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, qui précise que 4600 policiers sortiront encore de l'école en 2017. Et puis à tous les fans de Star Wars, Disney annonce le début d'un tournage, le tournage d'un nouveau film centré sur le personnage emblématique de Han Solo, un film indépendant des différentes trilogies. Le tournage a commencé hier au studio Pinewood de Londres.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, Xavier Alberti, entrepreneur et soutien d'Emmanuel Macron, Yann Lindin, rédacteur en chef de Flux Glacial, et également Christophe Alix de Libération. Quoi qu'on en dise, c'est vrai, il se passe des choses dans cette campagne. Profusion de primaires, candidats inattendus, Karine Le Marchand qui leur tâte la croupe, un hologramme, des soupçons d'emploi fictif, des renoncements. Oui, dans quelques années, on entendra les journalistes politiques dire « Oui, monsieur, moi j'ai fait 2017 ». Une campagne comme nulle autre, qui voit même Charlie Hebdo interpeller les candidats pour la première fois de son histoire. histoire, hein, on le verra, vous le verrez demain hein, dans les kiosques, ce qui turlupine l'hebdomadaire satirique, c'est la position de chacun sur la laïcité. Dans son édition donc de demain, le journal s'inquiète car selon lui, je cite, « Jamais depuis le vote de la loi de 1905, la laïcité n'a été autant attaquée ou instrumentalisée. » Il demande donc trois choses aux candidats, ne pas modifier la loi, ne pas introduire des aménagements particuliers à l'égard d'une communauté religieuse et ne pas créer de délit de blasphème. Pas toujours simple, selon le directeur de la publication de Charlie Hebdo, Riss.
Derrière les beaux discours de défense de la laïcité, on voit que parfois sur le terrain, les élus locaux, certains politiques baissent un peu les bras devant des difficultés qui se dressent et avec certaines pratiques religieuses. Et bon, c'est bien d'avoir des beaux discours électoraux, mais il faut aussi avoir le courage parfois de prendre les décisions qu'il faut et aussi de dire, au moins de dire les choses quand il y a des problèmes. Voilà. Et on a parfois l'impression que certains candidats glissent un peu là-dessus, récitent leur catéchisme de défenseur de la laïcité sans vraiment croire à ce qu'ils disent.
Directeur de la publication de Charlie Hebdo, Riss, il y en a un qui c'était important finalement que Charlie Hebdo, la première fois de son histoire, hein, s'implique dans une campagne présidentielle.
Ils m'emmerdent avec ces trucs-là, ils en ont fait un fonds de commerce, ça devient insupportable. Donc moi je les appelle les ayatollahs laïcs. Ouais. Bien sûr que je suis laïque, tout le monde est laïque. Alors ceux qui sont pas hystérisés par la laïcité en permanence, parce qu'ils voudraient arracher le voile de toutes les femmes musulmanes. Hein, ils sont une petite bande avec Badinter, Val, etc. Donc qui n'est pas avec eux est traité d'islamo-gauchiste. Moi je me fais traiter d'islamo-gauchiste. J'en ai marre quoi. Il faut respecter aussi, enfin du calme quoi. Arrêtons d'hystériser cette question. Je prends le métro, je me balade dans la rue. Il n'y a aucun musulman, aucun juif, aucun chrétien qui m'empêche de vivre aussi. Calmons-nous avec ça. Voilà.
Gilles Vintraube, l'idée aussi que on parle Charlie Hebdo, c'est de ne pas laisser, comme ils disent, la laïcité à Marine Le Pen, qui l'utilise depuis longtemps. On l'a encore vu aujourd'hui à Beyrouth, notamment où elle a refusé de mettre un voile pour rencontrer le grand mufti de Beyrouth. Oui. Et Florent Philippot parle de laïcité.
Marine Le Pen a tenté de s'en arroger le monopole d'autant plus facilement que, à une certaine époque, personne n'en parlait. Moi, je veux bien hein, les laïcs hystériques, tout ce qu'on veut. Combien de morts?
Vous
mettez sur le même plan l'hystérie laïciste ou laïcarde.
Non, j'ai pas dit sur le même plan.
Et l'hystérie et le terrorisme islamique, c'est ce que j'ai compris.
Non, c'est pas du tout ce que je dis.
Vous trouvez que Charlie Hebdo, qui a payé en vie humaine.
Mais je les ai soutenus, Charlie Hebdo, dans cette épreuve-là.
Ils ont dû apprécier. Ils doivent apprécier votre discours d'aujourd'hui.
Vous lisez Charlie Hebdo, vous le lisiez avant.
Ça m'arrive.
Je pense que là, non mais alors juste
le c'est plan, bon pour être très clair, Riss parlait de Benoît Hamon. Hein,
alors il parle de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron. Il parle des deux en fait. Il parle de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron sur le show.
Il parle de Benoît Hamon. Pourquoi? Parce que Benoît Hamon, après avoir été très bien et avoir participé à des combats de défense de la laïcité, notamment de la femme, avec cette députée néerlandaise. S'est mis élu à Trappes, a adopté la laïcité accommodante qui consiste à n'être jamais dérangé une certaine pratique de l'islam, y compris quand elle chasse les femmes des cafés interdit les cafés. Reportage que tout le monde a pu voir sur France 2.
Il parle également de laïcité accommodante, Xavier Alberti. C'est vrai que par rapport, par exemple, à Emmanuel Macron, lui, il parle de laïcité plus libérale, c'est-à-dire à l'image des pays anglo-saxons. Ça veut dire que aujourd'hui, finalement, on s'accommode de chaque religion, beaucoup plus affirmé qu'en France. Vous trouvez que ça serait finalement une possibilité d'ouverture de la laïcité ou faut en rester à la loi de 1905 assez stricte et sévère?
Le sujet, c'est que la loi de 1905, elle est apparue, elle a été construite dans une France qui était monoconfessionnelle. 100 ans plus tard, c'est plus le cas. On n'est plus dans une société monoconfessionnelle.
Il y avait des juifs, déjà.
Dire que globalement, on était quand même très majoritairement monoconfessionnel.
Il n'y avait pas de musulmans.
Il n'y avait pas une troisième religion.
Soyons clairs.
À taille critique.
Voilà. Appelons les choses par
leur nom. En tant que telle. Donc il y avait quand même une évolution. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas que la laïcité devienne un glaive. C'est ça le sujet. Et certains veulent s'en emparer, effectivement, pour en faire un glaive. La laïcité, c'est d'abord la liberté. De pouvoir exercer sa croyance ou sa non-croyance, parce qu'il y a quand même une majorité, je pense, d'agnostiques ou d'athées dans ce pays. Donc c'est pouvoir, vivre sa croyance ou sa non-croyance librement, c'est la première chose. Dans le respect d'un deuxième élément dont on ne parle jamais, qui est le droit. Il y a le droit, d'accord? Il y a le droit commun, il y a le droit civil, qui protège à un moment donné le citoyen des excès de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Donc quand la religion, elle empêche, quand elle contraint, quand elle l'oblige, elle devient à ce moment-là hors la loi, et l'état de droit, là, doit intervenir.
Donc par exemple, revenir sur la loi de 1905. Donc,
non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la laïcité, elle libère, c'est-à-dire qu'elle donne effectivement la possibilité à chaque citoyen de vivre sa croyance ou sa non-croyance. Et que lorsque la religion empiète sur la liberté, c'est le droit qui intervient, pas la laïcité. Ouais. C'est le droit.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. On va continuer à en parler dans un instant. On parlera également de ce fameux débat historique qui se profile le 20 mars. On parlera également un peu d'économie avec protectionniste, ce mot. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Voilà le programme à suivre dans les informés de France Info.
Moi, président, je mettrai fin à la créativité fiscale. Pas celle des entreprises ou des particuliers qui chercheraient à payer moins d'impôts, celle des décideurs publics, ministres et parlementaires.
Moi, présidente, je prendrai toutes les mesures nécessaires immédiatement pour que la population française vieillisse en santé et en activité.
Bonjour, c'est Olivier Delagarde. Chaque jour, à 9h52, 14h25, 19h20, je reçois une personnalité de la société civile qui vient défendre la mesure qu'elle adopterait si elle était présidente.
Moi, président, j'engagerai la France dans une cure massive de désintoxication à la complexité administrative.
France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Peu de changements demain, une ambiance bien grise sur la moitié nord avec quelques gouttes de la Normandie vers le nord de la Seine et l'Alsace, un peu plus marquées le long des frontières du nord. On aura du vent jusqu'à 60 km à l'heure dans les terres, 70 à 80 sur les côtes. Du sud-ouest au massif central et au Lyonnais, pas mal de nuages le matin, ça s'éclaircira l'après-midi très nettement vers Rhône-Alpes. Et puis toujours beaucoup de soleil sur les Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée. Mistral, Tramontane faibliront un peu. On aura un peu plus de nuages tout de même vers la Côte d'Azur et la Corse, surtout le matin. Pour les températures, peu d'évolution, souvent 4 à 9 degrés pour commencer la journée, un peu moins dans les vallées des Alpes et du Massif central. Et puis l'après-midi, ça grimpera avec 12 degrés à Abbeville, Nevers, 13 à Strasbourg, Paris, Brest, 15 degrés à Bordeaux et Lyon, 17 à Tarbes et Ajaccio et 20 degrés pour Perpignan et pour Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Julie Simul, bonsoir.
Bonsoir. Le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne veut faire des économies. Conséquence, fermeture de 5% de ses agences. 3600 départs à la retraite ne seront pas remplacés. L'objectif pour le groupe, économiser 1 milliard d'euros par an d'ici 2020. Une stratégie dénoncée par Denis Boutin, coordinateur à la CFDT.
Très clairement, quand la présentation nous a été faite, de nous dire pour d'ici à 2019, on va profiter des départs de 11 000 salariés en retraite pour n'en remplacer que 2 sur 3. Nous, on dit non. On dit non parce qu'il y a des nouveaux métiers, qu'ils soient des métiers conseil, qu'ils soient des métiers du digital. Il y a moyen de garder du personnel et de l'orienter différemment. Dans les agences aujourd'hui, les collègues sont déjà largement débordés de travail. Si on voulait diminuer les portefeuilles de clientèle, on pourrait éviter que les collègues fassent des burn-out, fassent des tentatives de suicide, et, parce qu'on en a quand même eu ces dernières années. Encore faut-il que la volonté de maintenir les effectifs soit là.
Denis Boutin de la CFDT chez Banque Populaire, Caisse d'Épargne. 3 arrestations tôt ce matin en France dans la lutte antiterroriste. 3 hommes de 18 à 30 ans arrêtés en région parisienne, à Marseille et à Clermont-Ferrand. La police les surveille depuis le mois dernier. Ils sont soupçonnés tous les trois d'avoir voulu partir en Syrie et de préparer des attentats sur le sol français. Dans cette affaire qui rappelle l'affaire Théo, le parquet de Bobigny fait appel de la requalification en viol. Une affaire qui date de 2015. L'interpellation d'un jeune homme à Drancy par un policier municipal. Il devait passer ce policier devant le tribunal hier pour des violences, mais finalement le tribunal de Bobigny décide de requalifier l'affaire en viol. Le procès est donc renvoyé aux assises. Nicolas Dupont-Aignan dénonce un viol démocratique. Il ne fait pas partie de la liste des candidats invités à débattre à la télé sur TF1 le 20 mars prochain. Ils sont 5, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La chaîne TF1 qui se défend, elle invite ceux qui sont les mieux placés dans les sondages. C'est ahurissant pour Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France qui veut saisir le CSA. 360 000 canards vont être abattus dans le sud-ouest pour tenter de stopper l'avancée du virus H5N8. C'est Stéphane Le Foll qui l'annonce en visite à Mont-de-Marsan dans les Landes, l'un des départements les plus touchés. Ça ne réglera pas le problème, réagit ce soir sur France Info Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne. 1,5 million de touristes en moins l'année dernière à Paris et en Ile-de-France, conséquence des attentats en 2015 dans le pays. 1-0 pour Caen ce soir contre Nancy, match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Et puis dans un quart d'heure, la suite de la soirée foot avec le coup d'envoi des deux matchs de la soirée. Ce sont les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Monaco joue à Manchester City et le Bayer Leverkusen reçoit l'Atlético Madrid. 20h33 sur France Info, on retrouve Jean-Mathieu Bernin pour la suite des informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont en forme, ils sont frais, ils sont chauds également. Un petit mélange, un tempéré, on va dire. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, Xavier Alberti, entrepreneur, soutien d'Emmanuel Macron, Yann Lindingue, rédacteur en chef de Flux Glacial, et Christophe Alix de Libération. Alors, on peut vous le dire, hein, ce soir, c'est la réponse française aux Avengers de Marvel. Vous savez, les films avec tous les super-héros réunis tous ensemble dans le même long métrage. Le 20 mars prochain, TF1 annonce un débat avec tous les prétendants à l'Élysée. Alors c'est un peu les Avengers avec les moyens du bord, hein, mais depuis quelques jours courait la rumeur. Un débat peut-il s'organiser entre François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Benoît Hamon et Emmanuel Macron? Qui pour l'organiser? Alors cela ne tournera-t-il pas au pugilat? Et le candidat d'En Marche acceptera-t-il? Parce que lui qui n'est pas tellement débat. Ça semblerait donc acquis puisque Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray recevraient les 5 candidats le 20 mars sur TF1. Pour France 2, qui souhaitait également faire une émission commune, eh bien, on verra plus tard, au mois d'avril, en tout cas, annonce la chaîne. Un débat inédit puisque jamais ça n'avait été fait jusqu'à présent et ça ne plaît pas à tout le monde et notamment à ceux qui ne sont pas invités, c'est toujours la même chose, Nicolas Dupont-Aignan.
C'est un véritable scandale démocratique parce que cela prive les Français de la liberté de choix. Les sondages se sont toujours trompés. Si l'on prenait la méthode de TF1 aux primaires, si on l'appliquait aux primaires, M. Fillon n'aurait pas été invité au débat et il a gagné. M. Hamon n'aurait pas été invité au débat et il a gagné.
Ouais, Nicolas Dupont-Aignan. Alors pourquoi il critique Nicolas Dupont-Aignan? Parce que le directeur du service politique de TF1 a dit que pour participer à ce débat, il fallait faire plus de 10% dans les sondages. Il faut savoir que le dépôt des 500 signatures se termine le 17 mars, soit 3 jours avant, donc on sera fixé. Mais en effet, il pourrait y avoir plus que 5 candidats qui auraient 500 signatures. Julie Vintraube, est-ce que déjà, juste avant de parler de ça, est-ce que vous trouvez ça intéressant, vous, comme initiative?
Moi, je suis partagée parce que Nicolas Dupont-Aignan a raison. Oui. C'est vrai que c'est un déni de démocratie. Ce sera vrai aussi pour Jacques Cheminade, s'il obtient ses signatures. Ce sera vrai pour François Bayrou, s'il obtient ses signatures.
S'il est candidat.
Et s'il obtient ses signatures. C'est vrai que le suspense va durer jusqu'à au moins demain.
Demain, 16h30.
Au moins demain. Ouais. En même temps, organiser un débat avec trop de candidats, c'est prendre le risque d'être inaudible.
On l'a vu avec
quand
les primaires.
Moi, je trouve que les primaires, ils ont assez limité les dégâts. Mais là, on risque d'avoir plus de candidats. Et quand on est inaudible, on ne contribue pas à la démocratie.
Mmh. Xavier Alberti, est-ce que l'exercice... C'est vrai qu'on a vu... Pourquoi finalement, aujourd'hui, TF1 et France 2 ont décidé d'organiser ça? Parce qu'on a vu quand même une appétence, hein, c'est vrai, des Français pour les débats. Alors certes, il y avait un peu moins de téléspectateurs pour les primaires de gauche, mais quand même, les gens ont regardé ces primaires-là. Est-ce que finalement, avoir les prétendants à la présidentielle, avec la tension à quelques jours... finalement, du premier tour. Est-ce que vous pensez que ça va être plus audible et aussi compréhensible, finalement, que les débats pendant les primaires, de droite et de gauche?
Je pense que, pour le coup, les débats des primaires, ils ont permis de caler des formules qui permettent, en tout cas, de donner la parole à chacun, même si ça ressemble plus vraiment à un débat, mais à des mini-oraux isolés.
C'est ça.
En revanche, ça donne un poids colossal à ce rendez-vous-là.
Ah ben.
On l'a vu sur les primaires, on a vu les audiences qui étaient quand même très importantes. Là, on imagine que sur à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, ça va avoir une audience qui va être incroyable. Donc ça donne un poids qui est très important. Je me demande si ça donne un poids qui n'est pas trop important d'ailleurs à cet exercice-là. Et c'est finalement...
À la solution, ce ne serait pas de débat.
Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est
de toute façon, on est rentré dans une société où c'est inévitable.
Ouais.
Voilà, ça arrivera,
pour vous,
c'est comme ça.
C'est
inévitable que ça arrive. Je dis juste que qu'est-ce qui peut sortir de là de bon, de moins bon, d'objectif ou de pas très objectif finalement? Et est-ce que, au bout du bout, c'est un exercice dont on se félicitera dans quelques mois? Je suis pas certain.
Yann, pour vous, ça vous intéresse? Vous trouvez ça intéressant de voir justement ces cinq candidats s'affronter ensemble?
Moi, ce que je veux vraiment, c'est écouter Dupont-Aignan. Donc, s'il est pas dans le débat, j'achèterai le disque.
Mais oui, désolé.
Parce que je trouve que ce qu'il dit, c'est vraiment très intéressant.
C'est vrai, toujours. Justement, alors Christophe Alix, quand on voit au départ, c'est vrai qu'on se dit, quand il y a eu la primaire de gauche, la primaire de droite, c'était des personnes qui se connaissaient bien, qui appartenaient pratiquement au même parti. Il y avait des petites cibles de temps en temps.
Oui, oui,
mais
tout à fait.
Là, on se dit, c'est vrai que déjà dans une même pièce, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Au milieu, on va mettre Benoît Hamon. Tout le monde va trouver François Fillon. Vous l'avez dit tout à l'heure, où ça va être compliqué de parler peut-être d'autre chose que ces ennuis. Est-ce que tout ça ne va pas créer beaucoup de tensions?
Si, ça va certainement créer des tensions, mais justement, on risque d'arriver dans ces formules de débat qui sont celles de la primaire, où en fait, finalement, c'est un petit peu une tribune pour chacun. Je crois que c'est dans l'entourage de Macron qu'on a dit ça. Chacun est un peu dans son couloir, et puis voilà, chacun aura son temps de parole. Donc, bon, il y aura peut-être effectivement une ou deux prises de bec, mais bon, ce sera plus dans l'idée peut-être que chacun déroule un petit peu son programme. On voit bien qu'un véritable débat, ça se fait pas à 5, 6, 7, et que c'est plutôt à 2 ou à 3. D'ailleurs, la vraie formule du débat, c'est deux personnes. Voilà, alors peut-être que, je sais pas, peut-être, il serait pas, il m'avait semblé que lors de précédentes élections, il arrivait que deux candidats soient l'un face à l'autre.
Deux candidats, c'est non, au second tour.
Mais c'est-à-dire, non, au premier tour, c'est-à-dire que deux candidats,
des
confrontations deux par deux. Alors après, je sais bien que ce serait très très compliqué
c'est
à cristalliser en termes de temps d'antenne, mais peut-être que dans certains cas, quand même, ça donne là un petit peu plus de...
Florian
Philippot, Emmanuel Macron, ça m'éclairerait plus peut-être que ce type de formule.
Mais là, ça sera Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, donc finalement les chefs de parti.
Oui, mais ce sera pas face à face, ce sera peut-être un peu côte à côte quand même aussi.
Ah, d'accord.
C'est un petit peu ce qu'on a vu lors des primaires, même s'il y a...
Et en même temps...
Et souvent, il a fallu trois débat de primaire pour que voilà, on arrive vraiment à avoir des confrontations. Souvent, le premier débat était un peu... Chacun était dans son couloir. Quoi.
Xavier Alberti, pour vous, c'est ça?
Il n'y a pas de formule parfaite.
Non, mais chacun serait dans son couloir et il n'y aurait pas d'affrontement. Pourtant, on a
Il y aura des tacles, mais il ne peut pas y avoir un vrai débat à 5, 6 ou 7. Parce que forcément, ça donne quelque chose qui est totalement inaudible. Donc, il y aura forcément des règles qui font qu'à un moment donné, chacun va essayer de donner le meilleur de lui-même sans forcément rentrer dans l'affrontement où finalement, personne n'a grand-chose à gagner. Quoi.
Allez, on va continuer. On parle dans un instant. Info à 20h40, Pierrick Bonneau.
François Fillon a présenté ce matin son programme en matière de santé, légèrement différent de ce qu'il avait proposé pendant l'entre-deux-tours de la primaire. Contrairement à ce qu'il avait déclaré, le candidat de la droite à la présidentielle a promis ce matin que le niveau de prise en charge des dépenses par l'assurance maladie ne diminuera pas. Benoît Hamon et Emmanuel Macron ironisent ce soir sur ce revirement. Emmanuel Macron, qui est à Londres depuis le début de la journée, le candidat du Mouvement En Marche, a rencontré la première ministre Theresa May et son ministre des Finances. Une sortie, je serais très attaché à ce qu'il n'y ait pas davantage pour le Royaume-Uni. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron à Theresa May. Il tient ce soir un meeting devant la communauté française de Grande-Bretagne. L'entourage d'Emmanuel Macron attend de 2 à 3 000 participants. Trois hommes interpellés par la police dans le cadre d'une opération antiterroriste très tôt ce matin à Marseille, Clermont-Ferrand et dans une commune de la région parisienne. Ils étaient surveillés depuis janvier dans le cadre d'une enquête pour des projets de départ en Syrie ou d'attentats en France. Les trois suspects ont entre 18 et 30 ans et se seraient rencontrés plusieurs fois dans la cité phocéenne. Donald Trump donne de nouveaux gages à la communauté juive des États-Unis. Le président américain dénonce des menaces horribles et douloureuses après les alertes à la bombe dans les centres communautaires juifs et des profanations de tombes aux États-Unis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore une question voilà sur cette petite chose qu'on va vivre le 20 mars, hein, c'est-à-dire ce premier débat entre les candidats à la présidentielle. Alors, on ne sait pas encore tous, parce que...
Des candidats,
exactement, puisqu'il faut avoir le seuil de 10% dans les sondages. Mais quel sondage? Et puis, surtout que la plupart de ces candidats disent que les sondages ne servent à rien. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu compliqué. Mais Judith Vintraube, on se souvient quand même d'un homme qui avait profité à plein de ces débats, c'est François Fillon.
Bien sûr.
On se souvient. Et donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que finalement, on dit en effet, on peut pas discuter, etc., on peut quand même s'en sortir? C'est débat. Il peut quand même en sortir quelque chose d'intéressant.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution sans défaut, sans inconvénient. Donc forcément, il y aura des inconvénients. Ne pas faire de débat du tout, c'est garantir qu'il n'y ait aucun inconvénient. Mais à mon avis, la démocratie, il perdra.
Il perdra. Alors, il y a une chose, on l'a vu, alors c'est une manière, on le vend comme ça, sur TF1, ouais, sur France 2, c'est une manière de faire participer les citoyens à davantage d'informations. On le voit d'ailleurs, c'est des souhaits de beaucoup de gens de participer davantage à la vie citoyenne, pas seulement d'aller voter. Est-ce que vous, ça vous intéresse finalement ces propositions quand on voit plus de référendums, plus de choses comme ça? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant pour la vie politique?
Je pense que quand on vote pour un chef, bon, c'est pour qu'il dirige quand même un minimum. Effectivement, on ne peut pas redemander après sans arrêt aux uns aux autres ce qu'ils veulent. Mais je crois que je suis plus intéressé par l'application au jour le jour par rapport à l'économie locale. Enfin, je sais pas, moi je fais mes courses dans une AMAP. J'ai bossé longtemps dans l'économie solidaire. Je pense qu'il faut s'impliquer dans les associations sur le terrain, mais on ne peut pas solliciter le peuple toutes les 5 minutes pour décider. D'autant plus qu'en général, c'est comme dans les jurys populaire, hein, les plus grosses erreurs d'appréciation sont faites par des gens de la société civile.
Et Xavier Alberti, vous justement, par rapport à Emmanuel Macron, alors il dit qu'il a construit son projet en consultant finalement à droite, à gauche, c'est le cas, hein, puisque voilà, on prend à droite
en
et à gauche.
Voilà. Les marcheurs.
Est-ce que pour vous c'est intéressant, voilà, alors ce genre d'initiative, on parle du débat, mais après on voit beaucoup de candidats qui parlent de référendum, de consultation populaire, de faire intervenir le citoyen, ça arrive souvent. C'est des souhaits, mais ça ne se manifeste jamais une fois que...
Ça se manifeste. En tout cas, ça s'est manifesté dans En Marche et ça se manifeste encore aujourd'hui dans la co-construction du projet et du programme d'Emmanuel Macron. Tout est parti effectivement de la Grande Marche, puis a été remonté dans les comités experts. Il y a 400 personnes qui ont travaillé sur chaque grand item, qui sortent les propositions. Donc c'est co-construit. Alors, c'est plus lent, c'est vrai. Mais c'est plus stable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort des propositions, on ne revient pas 4 fois dessus. Et on en est à un seul programme, un seul projet, avec une ligne directrice à la base, mais beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Et des gens qui sont compétents, c'est-à-dire qui savent de quoi ils parlent. Parce que le sujet, à un moment donné, de la classe politique hors sol, c'est effectivement d'être totalement déconnecté de la réalité de ce que peuvent vivre des infirmières, des chefs d'entreprise, des policiers,
pompiers. Mais c'est vrai, je vous dis, on l'entend souvent chez les candidats, on l'entend à chaque élection, je pense.
C'est l'exercice obligé.
Et pourtant, depuis tout simplement 2005, depuis le référendum, on sent bien qu'il y a quand même un petit frisson qui passe dans le dos de tous les présidents avant de se dire je vais faire un référendum alors que je l'ai promis pendant ma campagne.
Oui, absolument. D'où l'idée de certains candidats de faire les référendats tout de suite après leur élection, ce qui est aussi bizarroïde, puisque vous venez de demander au peuple s'il est d'accord ou pas avec des points fondamentaux de réforme. Alors, pourquoi le réinterroger après? Les intéressés répondent que ça permet de combattre un certain discours syndical. On pense à la CGT notamment, qui a prévenu que si Fillon était élu et appliquait les plus dures de ces mesures, eh bien même voter, la CGT continuerait à la combattre. Là, on se dit effectivement, à qui d'autre faire appel sinon au peuple pour faire respecter la volonté du peuple.
Il y a François Fillon et Marine Le Pen aussi, qui souhaitent aussi faire un référendum.
Il y a peut-être d'autres formules que le référendum. Parce qu'on voit bien que le référendum, c'est toujours la même chose. Dans les référendums, on ne répond pas aux questions posées en général.
L'originalité, c'est de les faire tout de suite après l'élection.
De toute façon, c'est ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui
on
est
pas très emballé, Christophe Alix, par rapport à toutes ces initiatives citoyennes.
Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que et ça pose d'ailleurs énormément de difficultés à la démocratie. On vit dans une instantanéité. On vit, on participe énormément via Internet, via les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui un nombre d'outils hallucinants à disposition. Comme je l'ai déjà dit ici, il y a tout un mouvement aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les civic tech qui essayent de voilà. Donc on ne peut pas ignorer tout ça. On est bien obligé effectivement de co-construire. On co-construit des lois aussi. C'est ce qu'a fait Axel Le Maire sur certaines lois sur le numérique. Bon, voilà. La difficulté, c'est qu'il faut réussir à le faire sans que ce soit ni complètement un gadget, ni quelque chose qui alourdisse énormément les procédures. Alors, je pense qu'en Suisse, parfois, tous les référendums d'initiative populaire, ils se sont rendus compte que c'était lourd et que ça ne servait pas toujours à grand-chose.
Gabriel Bertini.
Il y a un sujet d'échelon. Il y a un sujet de niveau. Un des échecs de nos modes de fonctionnement, c'est le jacobinisme et l'hypercentralisation. Mmh. Et le fait qu'à un moment donné, on ne peut plus arriver à régler centralement par la décision de quelques-uns ou d'un, un certain nombre de sujets qui sont devenus très complexes et qui finalement se règlent fort bien quand on redonne de l'autonomie à des niveaux, à des strates inférieures, qu'elles soient locales, régionales, départementales, communales. Et on se rend bien compte finalement que les bonnes solutions, elles sont souvent sur le terrain. Elles sont incapables de remonter. Et les processus décisionnels qui peuvent permettre de les mettre en place, elles existent sur le terrain. Et il faut redonner, non pas... souvent, on essaye de remettre en place une sorte de démocratie citoyenne centralisée.
Ça veut dire ne pas passer par la loi. Il faut d'abord accepter de ne pas passer par la loi.
Si, parce que la loi, elle peut fixer les cadres, mais à un moment donné, elle peut donner de l'autonomie, ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup de solutions qui ne passent pas par la loi, parce que des lois, on en fait probablement beaucoup.
Alors, justement, c'est ce que vous disiez, il y a dingue ça, aller sur le terrain, enfin finalement la base. Quoi.
Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, parce que je l'ai vécu, moi, dans l'économie solidaire. Il y a un secteur qui peut être développé avec les associations, etc., mais sur le terrain, c'est-à-dire redonner du pouvoir vraiment, si ce n'est pas les départements, c'est vraiment aux régions, aux associations, etc. Puis là, qu'il y ait des exemples un peu singuliers qui se créent, mais avec de la bonne volonté, mais pas en votant en permanence.
Le problème à propos des échelons, des collectivités en France, c'est que là où on a un peu échoué dans la décentralisation en France, c'est qu'on a à la fois donné beaucoup de pouvoir aux villes, aux métropoles, aux intercommunalités. On veut garder les départements, on veut avoir les régions. Il y a un moment, il faut aussi simplifier un peu ce millefeuille administratif.
Et donc, c'est pour ça que
la décentralisation en France a parfois semblé beaucoup plus embrouiller les processus de décision et la manière finalement de trancher tous ces débats.
Mais parce qu'on a recréé au niveau régional, au niveau départemental, finalement les petits frères de la centralisation. Au lieu d'aller au bout de la démarche, qui est une démarche plus citoyenne. Alors justement, le sujet, c'est pas de recréer des baronnies. Ce qu'on a fait, c'est recréer des baronnies. Baronnies, elles dysfonctionnent autant que la monarchie.
On s'est un peu amusé de la démarche aussi d'Emmanuel Macron quand il a demandé à n'importe qui de s'inscrire finalement aujourd'hui pour les législatives. Gilles Vintraud, aujourd'hui, ça a marché. Plutôt.
On verra la qualité des candidats
c'est révolutionnaire enfin de faire un truc comme quel parti politique aujourd'hui a été capable de dire vous inscrivez, vous envoyez vos CV, vos lettres de motivation, vous répondez à un certain nombre de questions et on va avoir effectivement un tri qui va être fait de manière à avoir 50% des candidatures sur les 577 circonscriptions qui ne seront pas des sortants, c'est-à-dire qui ne viendront pas de l'Assemblée nationale, qui ne seront pas des sortants politiques. C'est quand même quelque chose de hyper novateur. On peut quand même pas jeter ça
on verra
ça sert à rien, c'est rigolo, etc.
Non, mais j'espère que vous n'aurez pas été piraté au moins sur les candidats, en tout cas.
Ce qui est nouveau et pas forcément formidable.
Allez, l'info à 20h50, Pierre-Yves Bonneau.
360 000 canards abattus dans les Landes et un vide sanitaire général dans une zone englobant 4 départements du Sud-Ouest. Le ministère de l'Agriculture annonce de nouvelles mesures pour enrayer l'épidémie de grippe aviaire. Les abattages dans les Landes auront lieu dans les 15 jours, selon le ministre Stéphane Le Foll. Les autres palmipèdes des zones concernées seront épargnés jusqu'au bout de leur cycle, avant l'instauration du vide sanitaire. Donc, les faits rappellent étrangement l'affaire Théo. Le parquet de Bobigny fait appel d'une décision du tribunal correctionnel de la ville. Le procureur s'oppose à la requalification en viol des poursuites engagées contre un policier municipal de Drancy. L'agent avait blessé avec sa matraque un jeune en 2015. C'est la cour d'appel de Paris qui va désormais devoir statuer sur la nature des poursuites dans ce dossier. Un soldat franco-israélien de 21 ans condamné à 18 mois de prison pour la mort d'un Palestinien. Elor Azaria est accusé d'avoir achevé un assaillant alors qu'il était blessé. Ça s'est passé à Hébron en Cisjordanie en mars 2016. Verdict d'un procès qui a divisé Israël. Israël. Le soldat encourait 20 ans de réclusion. Les Palestiniens dénoncent une peine trop légère. Le Parlement néerlandais approuve un texte légalisant la culture du cannabis à des fins professionnelles. La consommation d'herbes est tolérée depuis longtemps aux Pays-Bas, notamment à Amsterdam, où un véritable tourisme du cannabis prospère. Ce vote va simplement permettre aux coffee shops qui en font ouvertement du commerce de s'approvisionner en toute légalité. Et puis dernier match de la 21e journée de Ligue 1, Caen bat Nancy à domicile ce soir 1-0.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste peu de temps pour parler d'un sujet dont on vous parlera beaucoup sur France Info demain. C'est un sujet économique, on va le décliner sur l'antenne et donc on en parlera beaucoup aussi aux informés de France Info. C'est cette nouvelle passion des populistes, le concept qui réglera tout, un peu comme un élixir, vous savez, qui au 19e siècle vous promettait à la fois de régler votre mal de dos et vous faire repousser les cheveux. Eh bien, ça s'appelle le protectionnisme économique. Son meilleur ambassadeur actuellement est Donald Trump et en France, Marine Le Pen y voit la solution à tout. Alors, c'est une tendance de fond, mais fait-elle vraiment en recette? Eh bien, pour l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, le protectionnisme cible d'abord ses victimes, Pascal Lamy.
Dans le monde d'aujourd'hui, les économies sont interpénétrées. Si vous faites quelque chose mieux que moi et que moi je fais quelque chose mieux que vous, nous avons un intérêt objectif à l'échange, tous les deux. Et vous empêchez de vendre chez moi ce que vous faites mieux que moi, ou l'inverse, c'est le consommateur qui dérouille à la fin, et en général, ceux qui utilisent l'essentiel de leurs revenus pour consommer, c'est plutôt les plus pauvres que les plus riches. Donc le protectionnisme, ça tape sur les pauvres.
Voilà, Pascal Lamy, ancien président donc de l'OMC la semaine dernière sur France Inter. Christophe Alix, pourquoi finalement, aujourd'hui, pourquoi ça s'est imposé, ce thème économique?
Ah bah, ça s'est quand même imposé pour une raison très claire, qui est que la mondialisation n'a pas fait que des heureux, et la mondialisation n'a pas arrangé l'état économique d'un certain nombre de populations dans un certain nombre de pays. Il y avait il y a quelques jours un article sur un graphique de la Banque mondiale qui montre très bien que dans les pays émergents, globalement, on a bénéficié de l'extension du libre-échange et de la mondialisation, que les classes supérieures et très riches des pays riches en ont bénéficié, mais que par contre, la plupart des populations des pays riches n'en ont pas bénéficié. C'était basé sur la stagnation du revenu.
Alors, un petit chiffre, c'est l'OMC qui a recensé près de 182 nouvelles mesures de protectionnisme dans les différents États qui les composent. Oui. Donc on voit que c'est vraiment une mesure de fond.
Le protectionnisme se développe, ça c'est sûr. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le commerce mondial, le commerce international continue de croître, mais à un rythme bien moindre qu'il y a quelques années. Après, une fois qu'on a fait ce constat, effectivement, c'est difficile d'y répondre. Mais en tout cas, la mondialisation pose un problème et la tentation protectionniste existe.
Est-ce que, finalement, quand Marine Le Pen en parle, Jean-Luc Mélenchon lui préfère parler de protectionnisme solidaire pour, je cite, imposer des normes sociales et environnementales sur les produits importés. Est-ce que ça peut marcher? Finalement, protectionnisme.
C'est une question de rapport de force, parce qu'elle l'a mis, le dit très bien. Ouais. Si vous êtes les États-Unis, Donald Trump, ça peut marcher. Ça n'a pas tout le temps marché depuis le peu de temps qu'il est élu. Là, il s'est déjà pris des râteaux d'établir des barrages commerciaux. Et puis, comme disait très justement Christophe, il y a quand même eu des bénéficiaires de la mondialisation dans les pays émergents. C'est vrai que nos classes moyennes occidentales en ont pâti et continuent d'en pâtir. Et c'est elles qui font le vote Trump aux États-Unis, le vote beaucoup Le Pen en France, les ouvriers énormément le vote Le Pen. On n'a pas de réponse immédiate à leur donner, on n'a pas de réponse en statique
donner. C'est un temps long en fait aussi, c'est ça. Xavier Alberti, pour vous aujourd'hui, ce thème, c'est vrai qu'on le voit partout, dans quel que soit le pays. En Europe, on voit qu'il y a énormément de populistes aussi qui disent c'est la solution aujourd'hui, protectionniste, on va fermer nos frontières et on va travailler entre nous.
Le sujet, c'est à quel échelon? On revient au même sujet. Et je pense que le vrai bon échelon de protectionnisme, pour nous, c'est l'Europe. Parce qu'on se bat d'ailleurs contre des blocs commerciaux et politiques qui sont protectionnistes.
Bien sûr.
La Chine
et l'Amérique du Nord.
Mais qui correspondent effectivement à des
à des pays continents, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'à des fédérations ou à des confédérations. Et donc le vrai niveau de protectionnisme, il devrait être européen, et l'Europe devrait protéger ses États membres, ce qu'elle ne fait pas ou ce qu'elle ne fait pas assez. Et le sujet, en revanche, du protectionnisme national, c'est une bêtise. Ça, c'est une vraie
bêtise. Pour vous, c'est une bêtise.
Oh bah oui, non, c'est
une hérésie. Quand vous entendez justement ces personnes, là, comme Donald Trump, Marine Le Pen, qui disent ah, attends, bah, aujourd'hui, on va, voilà, on va fermer et ça sera bon.
Eh bah oui, alors les Américains vont manger leur propre fromage. Hein, et puis nous, on va écouter notre propre musique. On va écouter Mireille Mathieu. On va arrêter de lire de la littérature américaine.
On fait d'autres musiques.
On aura peut-être des téléphones portables en sapin des Vosges. Hein, je sais pas.
Mais oui, voilà une idée. Vous pourriez vous recycler là-dedans. En tout cas, voilà, sur le protectionnisme, demain, on en parlera beaucoup sur l'antenne de France Info. On aura même un sondage, une enquête, pardon, faut dire enquête maintenant. On ne dit plus sondage parce que voilà, c'est pas bien de dire sondage. Une enquête en tout cas à vous révéler dès la matinale. Voilà, c'était les informés de France Info. Merci beaucoup à Xavier Alberti d'être passé ce soir. Merci également à Yann Lindin. Un petit coup d'œil sur la lune de flux glacial comme sur la montre.
C'est un hommage au Figaro. C'est la planète des riches.
La planète des riches.
Voilà. Un peu tard,
alors,
mais voilà.
Alors j'ai la une de Libé.
Mais attendez, alors je vais vous la demander, mais j'ai envie de faire durer le suspense parce que les gens n'attendent que ça, vous savez.
Bien sûr. Donc,
alors j'ai dit demain trop la une du Figaro.
Nous on parle d'un rapport sénatorial sur la déradicalisation. Djihadiste, la politique de déradicalisation en échec.
Voilà, la rapport une du Figaro demain. Et alors Christophe Aix, la une de Libération.
Eh bien c'est un témoignage sur les violences policières, donc c'est une citation. Le policier m'étranglait, j'ai cru que j'allais mourir.
Voilà, trouvé donc en une demain de Libération.